Bonjour Claire.
Bonjour Stéphane, bonjour
On
à tous.
On commence avec ce revirement en Allemagne. Après plus de 10 ans après l'annonce de l'arrêt du nucléaire, je viens de le dire en titre, le prolongement de certaines centrales devrait être acté.
Ah oui, c'est selon le Wall Street Journal, Berlin qui cherche donc des alternatives au gaz russe, s'apprête finalement à retarder la fermeture de ses centrales nucléaires. Delphine New.
C'est un virage à 180 degrés pour Berlin. Fin juin, le gouvernement allemand refusait encore de prolonger l'exploitation de ses trois dernières centrales nucléaires, censées fermer d'ici à la fin de l'année. Mais voilà, l'Allemagne est au bord de la pénurie. Le responsable de la gestion des approvisionnements alertait dans le Financial Times du risque sérieux de crise énergétique cet hiver. Selon le Wall Street Journal, la décision doit encore être adoptée formellement par le gouvernement et approuvé par le Parlement. Les libéraux du FDP sont pour. Les Verts et les sociaux-démocrates du SPD, d'abord réticents, semblent donc prêts à revoir leur position pour permettre à l'Allemagne de s'émanciper plus rapidement du gaz russe, à condition que la prolongation des réacteurs soit bornée dans le temps. Ces trois centrales n'assurent qu'environ 6% de la production d'électricité de l'Allemagne, mais leur prolongation permettrait de libérer autant de ressources gazières pour l'industrie et le chauffage des ménages.
Et en parallèle, les prix du pétrole n'en finissent pas de reculer.
Et oui, on est aujourd'hui au plus bas depuis le début de la guerre en Ukraine. La barre du Brent flirte aujourd'hui avec les 92 dollars, alors qu'elle avait flirté avec les 140 dollars juste après le début du conflit. Forcément, ça se ressent à la pompe. Pour autant, il ne vaut mieux pas trop s'y habituer, Sofiane Aklouf.
Premier facteur de baisse, la crainte d'une récession mondiale qui joue sur la demande. Conséquence à la fois du conflit en Ukraine et des reconfinements en Chine. Des mesures sanitaires ont fait s'effondrer la consommation dans le pays. Cette baisse de la consommation intervient malgré les vacances qui incitent au déplacement et donc au passage à la pompe. De quoi présager d'une diminution de la demande à plus long terme. Deuxième facteur, les avancées sur le dossier du nucléaire iranien. La possible levée des sanctions permettrait d'apporter 1 million de barils supplémentaires sur le marché mondial. Pas sûr que cette tendance à la baisse se poursuive. D'abord, parce que de nouvelles sanctions sur le pétrole russe vont être appliquées d'ici à la fin de l'année. Un renforcement de l'embargo qui privera le marché d'1,5 million de barils par jour. La saison des ouragans risque également de compliquer l'équation avec la fermeture probable de plateformes pétrolières sur les côtes américaines. À plus long terme, la quantité d'or noir devrait donc se tarir plus rapidement que la consommation, avec à la clé une nouvelle hausse des cours.
Et on reviendra sur les cours du pétrole dans quelques instants avec Antoine Larigauderie. On va parler éducation. À quelques jours de la rentrée aux États-Unis, la prestigieuse université de Harvard va offrir un accès gratuit aux étudiants dont les revenus sont modestes.
Oui, 10% des étudiants seraient concernés, c'est-à-dire 200 sur les 2000 inscrits chaque année. Ils seront exonérés des 76 000 dollars de frais de scolarité. Harvard devrait être l'endroit des futurs leaders les plus talentueux, où ils peuvent venir ici réaliser leur potentiel. C'est ce qu'explique le doyen de l'université. Nous voulons donc lever les barrières financières qui les en empêchent et effacer le poids de la dette. Voilà ce qu'il dit. Il leur restera à prendre en charge le coût de la vie et de l'assurance, qui est tout de même estimé à 35 000 dollars par an.
C'est l'une des conséquences de la sécheresse les plus inattendues. Elle concerne les crypto-monnaies et le minage en particulier.
Ouais, le minage de Bitcoin, une activité qui est très consommatrice en électricité, elle est contrainte de s'adapter aux conditions climatiques extrêmes et aux conséquences sur le marché de l'énergie. En Norvège, un spécialiste du secteur a pris une mesure radicale. Simon Tenenbaum.
Face à la sécheresse, le minage de Bitcoin déménage au-delà du cercle polaire. CryptoVault, un spécialiste basé en Norvège, a ainsi décidé de déplacer ses opérations du sud au nord du pays. En effet, la Norvège est aussi frappée par la sécheresse qui sévit en Europe. Or, les barrages produisent 90% de son électricité domestique. Les prix sur le marché, déjà en tension à cause de la crise énergétique, ont flambé. Sauf dans le nord, au-delà du cercle arctique, où les réserves en reste importante. CryptoVault, qui risquait de voir sa facture énergétique doubler cette année, n'avait pas le choix. L'électricité représente 80% de ses dépenses opérationnelles. Les pays scandinaves attirent depuis longtemps le minage grâce à leur électricité verte et bon marché, ainsi que leur climat qui limite les besoins en refroidissement. Mais la crise énergétique risque de changer la donne. La Suède, par exemple, troisième pays européen du secteur, réfléchit à prendre des mesures pour limiter le minage de crypto-monnaies sur son sol.
Est-ce une plaisanterie ou de la provocation? En tout cas, Elon Musk, le milliardaire américain, affirme vouloir acheter le club de foot anglais Manchester United.
Et c'est bien sûr Twitter qui l'a choisi pour le dire. Pour percevoir l'ironie du milliardaire, Elon Musk a d'abord écrit ce message sur le réseau social. Je soutiens la moitié gauche des républicains et la moitié droite des démocrates, qu'il a donc fait suivre de ce commentaire. Et j'achète Manchester United. De rien. Fin de la citation.
Et on vous en parlera dans quelques minutes avec Antoine Larigauderie. On est au croisement de deux de ses passions, Elon Musk et Manchester United. À tout de suite, Antoine. On termine avec le télétravail. On a l'impression, Claire, que dans la tech, les heures dorées du télétravail semblent révolues.
Ah ben, en tout cas, chez Apple, c'est le temps du retour au bureau. Le géant américain a demandé à ses employés de revenir travailler au siège au moins 3 jours par semaine dès septembre. Virginie Cook.
À partir du 5 septembre, les employés du siège d'Apple devront obligatoirement venir au bureau le mardi, le jeudi et un troisième jour qui sera choisi par leur manager d'équipe. C'est un nouveau pas vers un retour à la normale. Jusqu'à présent, les salariés devaient être présents sur site seulement 2 jours par semaine. Cela fait déjà plus d'un an que les dirigeants d'Apple tentent de réduire le télétravail. Les réunions face à face font partie de l'ADN du géant américain. Mais ce n'est pas au goût de certains salariés qui se sont habitués au télétravail. D'autres entreprises de la tech ont la même politique qu'Apple. C'est le cas d'Alphabet, la maison mère de Google, qui a demandé à ses équipes de venir au bureau 3 fois par semaine pour favoriser les échanges entre salariés. D'autres, au contraire, sont beaucoup plus flexibles, une façon de garder ou d'attirer les meilleurs talents. Selon le PDG d'Airbnb, les salariés les plus talentueux ne se trouvent plus à San Francisco. La plateforme autorise ses employés à travailler de n'importe où sur la planète 90 jours par an. Idem du côté de Facebook, Mark Zuckerberg encourage même le travail à distance et certains cadres du groupe ont par exemple décidé de vivre entre Londres et la Silicon Valley.
7h08, les marchés financiers.